L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Mars 1993. Le soleil tape fort sur la vallée de San Bernardino, en Californie. Sur le bord d'une route poussiéreuse, une femme referme doucement la portière d'une voiture cabossée. Elle plisse les yeux, balaye les environs du regard. L'air tremble au-dessus du bitume et distille l'odeur chaude et âcre du macadam. Juste en face, l'imposante silhouette d'une usine gronde en sourdine. Un enchevêtrement de tuyaux, de réservoirs et de cheminées dressés au milieu du désert comme un mirage métallique. À ses pieds, des bassins stagnants. Plus loin, des lignes à haute tension découpent le ciel. Cette femme sur la route, c'est Erin Brockovich. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose. Peut-être que vous l'associez à Julia Roberts, à un film qui sent bon le rêve américain, mais derrière l'écran, il y a une autre histoire, beaucoup moins glamour. L'histoire d'une femme en colère, qui va se retrouver au cœur d'un scandale sanitaire majeur. Ce jour-là, elle ne le sait pas encore, mais elle vient de poser le pied dans l'arène. Face à elle, une des plus puissantes multinationales américaines. Nous sommes le 7 mars 1993, il est 14h18, et c'est l'heure H de mon histoire. Après son détour par l'usine, Erin reprend la route le long des grillages rouillés, à travers les rues clairsemées de Hinckley. Elle roule lentement, notant les habitations abandonnées, les terrains vides, les panneaux à vendre aux fenêtres. Elle s'arrête devant une maison toute simple, peinture écaillée, toit en tôle, pelouse grillée par le soleil. Le genre d'endroit qu'on oublie facilement, sauf quand on y a grandi. Erin passe son enfance au Kansas, entourée de vastes plaines et de petites villes où tout le monde se connaît. Dès ses premières années d'école, elle se heurte à la dyslexie, cette barrière qui transforme chaque mot en puzzle, chaque phrase en énigme. Les autres enfants semblent avancer avec une facilité qu'elle n'a jamais. Et elle sent souvent le regard des enseignants et des camarades peser sur elle. À la maison, sa mère répète sans cesse le même conseil. « Ne te laisse jamais marcher sur les pieds. » Cette phrase, martelée dans les moments de doute et de colère, devient un fil conducteur dans sa vie. Elle apprend à se tenir droit et à affronter le monde avec une obstination qui ne la quittera jamais. Jeune adulte, elle commence des études dans différentes universités, puis décide de s'installer en Californie. Elle se marie, devient mère, achète une maison, mais la relation se dégrade et son couple se défait. Après un divorce et un bref second mariage, Erin, mère de 3 enfants, se retrouve seule, jonglant entre vie de famille et travail de secrétaire. Les revenus sont incertains, les factures s'accumulent. Elle enchaîne les petits boulots, serveuse, vendeuse, assistante à temps partiel. Jamais assez longtemps, jamais assez payée. La voiture menace de lâcher, le frigo est vide plus souvent qu'il ne devrait. Le téléphone est suspendu un mois, l'électricité le suivant. Chaque matin commence avec l'angoisse de ne pas y arriver. Pourtant, Erin ne lâche rien. Elle enchaîne les refus, les jobs mal payés, les heures de route. Elle se présente aux entretiens, maquillée, droite, confiante en apparence, mais derrière, il y a l'épuisement, un épuisement immense. Un jour de novembre pluvieux, elle est impliquée dans un accident de voiture. Bon, c'est pas de sa faute, mais les choses tournent mal. Elle décide de porter l'affaire en justice, représentée par un avocat nommé Ed Masry. Malheureusement, son procès est perdu. Humilié et en colère, Erin retourne voir cet avocat et lui demande une faveur. Un emploi. À contre-cœur, Ed l'embauche comme secrétaire, pensant probablement qu'elle ne restera pas. Mais c'est mal connaître Erin, qui est une personne particulièrement déterminée, vous allez le comprendre. Chaque matin, malgré la fatigue qui pèse sur ses épaules, Erin arrive à l'heure au cabinet, prête à affronter sa journée. Sa mission du jour ? Ouvrir un nouveau dossier concernant un litige immobilier. Elle étale les papiers concernant l'affaire sur son bureau, les observe distraitement, puis s'apprête à les parcourir quand le téléphone retentit. Elle décroche rapidement, répond de manière automatique. Note quelques mots au vol. Avant que son regard ne se pose sur une chemise cartonnée qui dépasse du tas de papiers administratifs. Un tampon rouge marqué « confidentiel » barre la couverture. Sans réfléchir, elle attrape le dossier et hésite un instant, jetant un coup d'œil vers la porte pour s'assurer qu'elle est bien seule. Personne ne bouge. Aucun bruit ne vient troubler le silence feutré du bureau. Elle ouvre alors la chemise, découvrant une série de documents médicaux. Dossier d'examen, analyse, compte-rendu de consultation. Des noms, des dates, des histoires de douleurs chroniques, de tumeurs, de maladies qui semblent se répéter sans raison. Ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait en ouvrant un dossier lié à une affaire de terrain. Puis, en parcourant plus attentivement les papiers, elle remarque que plusieurs des patients habitent à Hinckley, une petite ville du désert californien. Erin continue à feuilleter, découvre d'autres documents, des actes de vente, des échanges entre la compagnie d'électricité locale et des habitants inquiets. Des papiers qu'elle ne comprend pas encore totalement, mais qui lui donnent l'impression que quelque chose cloche. Sans pouvoir expliquer pourquoi, elle garde la chemise près d'elle, refermée mais jamais oubliée, avec ce sentiment étrange qu'elle vient de tomber sur un secret qu'on aurait préféré lui cacher. Les jours suivants, Erin revient au dossier en douce. Entre deux cafés ou quand le bureau se vide un peu plus tôt, elle fait comme si de rien n'était, mais dans sa tête, ça tourne en boucle. Elle commence à rassembler les informations, à les organiser avec soin dans un vieux cahier à spirale qu'elle a retrouvé au fond de son sac. Une page est consacrée au nom des malades, une autre aux symptômes qui reviennent sans cesse. Sur une feuille froissée, elle dessine une carte à main levée de Hinckley avec des croix rouges pour signaler chaque maison touchée par la maladie. Son enquête prend de l'ampleur. Elle arrive à un stade où il lui faut rassembler des témoignages directs des personnes impliquées. Elle enchaîne alors les appels téléphoniques. Sa voix devient plus douce, rassurante. Elle explique qu'elle appelle du cabinet d'avocat Masri. Elle note à la hâte les réponses sur des enveloppes vides, capturant des bribes d'histoire, des détails qui reviennent. Parfois, les gens s'attardent, parlent longuement comme si quelqu'un leur donnait la chance d'être enfin écoutés, après des mois d'indifférence. Au bout du fil, Erin entend des toux fatiguées, des silences lourds, des voix qui tremblent. Elle entend la lassitude, la résignation qui s'installe. Plus elle creuse, plus la vérité lui apparaît. Ça sent mauvais, très mauvais. Des cancers qui se multiplient, des fausses couches, des organes fragilisés, des anomalies qui n'ont jamais reçu de réponse, des alertes ignorées. Une contamination invisible ronge la santé des habitants de Hinckley. Un poison discret, banal, presque familier. Et si le danger se cachait là où personne ne pense à regarder ? Menant sa propre enquête, Erin Brockovich se retrouve sur la route, face à une maison toute simple, dans la ville d'Hinckley, qu'elle vient de découvrir. La porte d'entrée s'ouvre sur une femme d'une cinquantaine d'années, au regard franc, les cheveux tirés en arrière. Elle s'appelle Roberta Walker et réside à Hinckley depuis plus de 20 ans. Erin se présente. Elle parle vite et pose beaucoup de questions. Pas de jargon juridique dans sa bouche, pas de fausse politesse non plus. L'intérieur de la maison est modeste et chargé de souvenirs. Des cadres, des jouets d'enfants, des papiers en pile sur la table du salon et parmi eux, un dossier médical épais, écorné par les années. Roberta le tend presque machinalement à Erin, qui découvre des pages et des pages de diagnostics. Tumeur, trouble de la thyroïde, douleur chronique, non pas pour un seul membre de la famille Walker, non, mais pour chacun d'eux, adulte comme enfant. Une litanie de symptômes sans explication claire. Roberta s'installe sur un fauteuil en cuir face à Erin et reprend l'histoire depuis le début. Tout a commencé avec une simple bouteille d'eau. Au début, rien de tellement inhabituel. L'usine livrait des milliers de litres d'eau en bouteille aux habitants du quartier. Il s'agit d'une précaution, disait-il. Un problème temporaire avec l'eau du robinet, rien de plus. Oh, Roberta et sa famille n'y ont pas prêté trop attention, non. Après tout, recevoir de l'eau en bouteille, ça arrive. Jusqu'au jour où Roberta a demandé, comme une blague, comme pour mettre l'usine au défi, si leur piscine devait aussi être remplie avec cette fameuse eau en bouteille. L'usine n'a pas hésité une seconde. Ils ont dit oui et ont commencé à remplir la piscine. Ce geste excentrique a surpris Roberta. Quelque temps après, les représentants de l'usine sont revenus, mais cette fois-ci pour proposer de racheter la maison familiale. Non seulement ils voulaient l'acheter, mais ils offraient un prix plus élevé que celui demandé, comme pour s'assurer qu'elle accepterait sans poser de questions. Pour Roberta, c'est le moment où tout a basculé. Que justifiait cette urgence à reprendre la maison? Pourquoi ce prix inhabituel? Que savait-il que sa famille ignorait? Petit à petit, des questions se sont insidieusement imposées. Qu'y avait-il vraiment dans cette eau qu'ils buvaient, qu'ils utilisaient au quotidien? Roberta commence alors à se demander si cette eau si banale n'est pas en train de les empoisonner silencieusement. Une menace invisible, tapie dans chaque goutte, prête à détruire tout ce qu'ils ont construit. Le jour où Roberta et son mari ont acheté cette maison, tout semblait plein de promesses. Une grande propriété, nichée à quelques centaines de mètres seulement de l'entreprise Pacific Gas and Electric. Ce mastodonte qui fournissait le gaz et l'électricité à toute la Californie. À l'époque, la présence de l'usine paraissait lointaine, presque anodine, une simple voisine industrielle dans le paysage. La maison était plutôt spacieuse et possédait un jardin avec une piscine creusée qui scintillait sous le soleil, et même des écuries où leurs chevaux pouvaient courir librement. Erin écoute Roberta se replonger dans ses souvenirs, attentive, consciente que ce qu'elle entend dépasse tout ce qu'elle avait pu imaginer jusque-là. Le dossier dépasse le simple litige. Cette prise de conscience pousse Erin Brockovich à poursuivre son investigation sans jamais compter ses heures. Chaque témoignage qu'elle recueille la hante. Chaque visage marqué par la maladie la poursuit jusque tard dans la nuit. Elle s'inquiète profondément pour ses enfants aux pathologies étranges, ses familles qui vivent avec la peur au ventre, sans vraiment comprendre ce qui les frappe. Ce qui motive Erin, c'est son impossibilité à rester passive face à l'injustice. L'eau, ce liquide vital qu'on boit sans réfléchir, devient soudainement menaçante. Comment faire confiance à quelque chose d'aussi anodin et essentiel quand on sait qu'elle pourrait être empoisonnée ? Erin veut faire analyser cette eau par un laboratoire indépendant au plus vite. Elle commence donc à collecter des échantillons partout où elle peut, dans les maisons, les puits, les points d'eau publics. Elle photographie les tuyaux, les robinets, les seaux abandonnés. Tout est documenté, rien n'est laissé au hasard. À chaque puits, elle répète le même rituel. Remplir le flacon, observer la surface, humer l'odeur, secouer légèrement pour détecter des particules en suspension. Elle regarde la couleur, parfois légèrement jaunâtre, parfois limpide, parfois avec un reflet métallique. Souvent, l'eau paraît claire. Et c'est justement ça, le piège. Rien dans sa transparence ne laisse deviner ce qu'elle contient. Les heures passent, le soleil tape fort, ses mains commencent à sentir le chlore et la poussière. Elle essuie la sueur de son front, respire profondément et continue, infatigable. Quand la tournée touche à sa fin, Erin s'assoit un instant sur le bord d'une vieille citerne vide. Elle observe les échantillons alignés sur le sol. À ce moment-là, le silence de Hinckley lui pèse. Elle contacte des experts et des scientifiques. Et peu à peu, les résultats tombent, révélant une présence inquiétante du chrome hexavalent, un métal lourd toxique, détecté sur plus d'un kilomètre autour de la zone. Ce chrome, utilisé pour empêcher la corrosion des tuyaux, s'est infiltré dans les réserves d'eau potable. C'était donc ça, l'usine géante déverse ses eaux usées directement dans le sol, contaminant lentement mais sûrement toute la région. Face à cette révélation, l'entreprise Pacific Gas and Electric organise des réunions avec les habitants. Mais loin d'avouer la vérité, elle répète que le chrome est sans danger et même bon pour la santé. Un mensonge cynique, destiné à étouffer la contestation. Un soir, Erin se rend à l'une des rencontres de voisinage organisées par la multinationale. Une salle lumineuse, des tables alignées, des brochures glacées empilées près d'un buffet, des graphiques rassurants, des mots soigneusement choisis. Les représentants sourient, pointent des colonnes bleues, des pourcentages maîtrisés. On parle d'innocuité, on ne parle pas des fièvres nocturnes, des saignements inexpliqués, des enfants qui ne grandissent pas normalement, des animaux tombés malades. Tout est mis en scène pour créer un climat de confiance. Les chaises sont confortables, la lumière est douce, le café chaud. Les brochures montrent des familles souriantes et des employés travaillant dans des laboratoires impeccables. Les phrases sont claires, affirmatives, mais elles ne disent pas tout. Elles parlent d'eau analysée et conforme aux normes, de risques minimaux, de vigilance continue. Des informations pour le moins incomplètes. Erin remarque la précision mécanique de chaque chiffre, mais aussi l'absence de contexte. Rien sur les échantillons collectés par les habitants, rien sur les anomalies répétées, rien sur la colère silencieuse de celles et ceux qui savent que leur quotidien est bouleversé à jamais. Le ton en devient presque paternaliste. Rien n'est laissé au hasard. Les visages souriants, les poignées de main, les regards apparemment attentifs. Tout contribue à créer l'illusion d'une entreprise bienveillante, soucieuse du bien-être de ses riverains. La mise en scène est complète. Erin perçoit la logique derrière chaque détail. Le déni se fabrique ici, méthodiquement. Les conversations entre habitants sont discrètes. Certains échangent des regards inquiets, d'autres hoche la tête en suivant les graphiques, mais Erin perçoit leur doute latent. Elle observe les mains qui jouent nerveusement avec les brochures, les sourcils froncés derrière des sourires de façade. Et celles et ceux qui posent des questions sont rapidement ramenés au discours officiel. Erin sait que la vérité se cache entre les lignes, dans les détails qu'on ne montre pas, dans les questions qu'on n'ose pas poser. Elle sait que les habitants ne vont pas se laisser faire. Ce n'est que le début d'un combat qui s'annonce long et difficile. Mais elle est prête à tenir la barre, coûte que coûte. D'abord seule dans ses recherches, Erin Brockovich réussit peu à peu à convaincre ses collègues de la soutenir. Portée par ses découvertes, une plainte est déposée contre l'usine Pacific Gas and Electric. Ce qui a commencé comme un simple dossier devient une véritable bataille juridique. Peu à peu, les habitants de Hinkley sortent du silence. Ils sont 658. À se joindre à la procédure, unis par la même colère et la même douleur. Roberta fait partie de ces voix qui s'élèvent. Erin s'implique corps et âme dans le procès. Elle enchaîne les rendez-vous, les entretiens, les déplacements. Les semaines s'étirent comme un long ruban de papier qu'on déroule sans fin. Chaque jour, de nouvelles histoires arrivent sur le bureau d'Erin. D'abord hésitant, les habitants de Hinkley commencent à franchir le pas. Une lettre glissée sous une porte, un coup de téléphone timide, une apparition impromptue dans le bureau. Chacun raconte son inquiétude, sa douleur, parfois sa peur de représailles. Erin écoute tout. Elle note, classe, photographie, recoupe chaque détail, chaque symptôme, chaque document. Chaque élément devient une pièce de plus dans un puzzle qui s'agrandit à vue d'œil. Erin continue de se rendre régulièrement à Hinkley. Elle arrive toujours un peu à l'improviste, mais on la laisse entrer, parce qu'au fond, les gens veulent parler. Pas forcément pour se plaindre, juste pour que ça existe quelque part, ce qu'ils vivent, ce qu'ils endurent. Erin, elle, note. Pas pour faire un rapport, pas pour cocher des cases, non, pour garder une trace. Et à mesure qu'elle avance, elle voit bien que les histoires se répètent. Les détails changent, mais le fond reste le même. Des vies cabossées, un quotidien qui use, et cette sensation d'être seul, oublié, pris pour des imbéciles. Parfois, Erin se retrouve seule à la tombée de la nuit, assise dans sa voiture, le carnet sur les genoux, relisant les observations du jour, la liste interminable des noms, des coordonnées, des symptômes. Le poids de ses vies pèse sur ses épaules. Une charge que ni les tableaux, ni les rapports, ni les graphiques ne peuvent alléger. Le réseau de plaintes s'élargit chaque jour. Les voisins discutent entre eux. Les craintes se mêlent à la curiosité. Une mère qui a hésité pendant des semaines revient avec son mari, apportant les résultats d'analyses privées et des photos des enfants. Un autre habitant, employé de l'usine, rencontre Erin en cachette, inquiète s'exposer. Les analyses scientifiques s'accumulent. Les relevés tombent, confirmant peu à peu les pressentiments d'Erin. Le chrome hexavalent n'est pas seulement une hypothèse. Il est présent dans les puits, dans les réserves, dans le réseau d'eau. Chaque résultat renforce les plaintes et crédibilise les inquiétudes des habitants. Leur voix, d'abord isolée, commence à se rassembler en une force collective. Ed Masri, qui avait engagé Erin au cabinet d'avocats, commence à la rejoindre sur le terrain. Ensemble, ils visitent les maisons, analysent les relevés, valident les témoignages. Erin jongle avec les appels, les courriels, les réunions avec Mazri, les résultats de laboratoire. Les soirées à la maison se font rares. Les dîners se transforment en repas rapides, souvent interrompus par des appels ou des documents urgents. Un soir, Erin rentre tard. Personne ne l'attend plus à table. Dans la cuisine, la lumière est restée allumée. Sur le plan de travail, un dessin d'enfant. Et elle reste là, sans bouger. Elle pense au cahier de devoirs qu'elle a oublié de signer, à la promesse d'aller au parc, repoussée encore une fois. Elle plie le dessin et le glisse dans son carnet, entre deux relevés de terrain. La culpabilité s'installe. Un rappel constant du prix à payer pour chaque avancée. Pourtant, malgré la fatigue, Erin sent que l'affaire avance. Des réunions s'organisent dans des garages ou des salons pour mettre en commun les informations. Erin assiste parfois à ces réunions, prenant des notes, guidant les discussions, écoutant sans juger. La solidarité entre les habitants grandit. Erin se rend compte que le poids qu'elle porte se partage maintenant avec cette communauté, que l'affaire ne dépend plus d'elle seule. La pression sur Pacific Gas and Electric s'accroît à mesure que les plaintes se multiplient. Des lettres officielles arrivent. Des appels anonymes se succèdent. Certains documents confidentiels sont transmis à Erin pour corroborer les témoignages. Chaque refus de l'entreprise, chaque tentative de minimisation ne fait que renforcer la détermination d'Erin et de Mazri. Le duo se complète. L'intuition et l'empathie d'Erin alliées à l'analyse juridique et stratégique de Mazri. Ensemble, ils dressent un dossier de plus en plus solide, précis, méthodique. La tension monte à mesure que les semaines s'écoulent. L'année 1996 marque la fin de la procédure judiciaire. Après des semaines d'auditions, de témoignages bouleversants et de batailles juridiques, l'atmosphère dans la salle d'audience est lourde. Les regards sont fatigués, les respirations contenues, comme si chacun savait que le moment décisif approchait. À la barre, les avocats de Pacific Gas and Electric affichent des visages impassibles. Leurs costumes impeccables, leur dossier épais et parfaitement classé, trahissent leur confiance habituelle. Pourtant, derrière cette façade, une tension lourde s'installe. Leurs regards s'évitent parfois, comme si chacun pressentait que le terrain leur échappe. Alors, une silhouette se lève. Erin Brockovich. Elle n'est pas avocate, pas diplômée de droit, et pourtant, toute la salle l'attend. Elle connaît le dossier mieux que quiconque. Ses talons claquent légèrement sur le sol ciré quand elle s'avance. Dans sa main, elle tient un simple verre d'eau, transparent, banal. Erin le soulève à hauteur de son visage et le fait tourner doucement. Les reflets de la lumière s'y accrochent, dessinant des éclats qui éblouissent presque les premiers rangs. Lorsqu'elle est certaine d'avoir capté l'attention de la salle, sa voix s'élève. C'est eau dont on parle tant. Erin marque une pause, laisse flotter ses mots dans l'air saturé de tension. C'est celle que vous buvez chaque jour ici même, dans cette salle depuis le début du procès. Un frisson traverse l'assemblée. On entend quelques inspirations brusques, puis plus rien. Même le juge, impassible jusque-là, se redresse légèrement, intrigué. Les représentants de Pacific Gas and Electric se figent. L'un croise les bras avec brusquerie, l'autre esquisse un sourire crispé, mais leur visage se ferme. Leurs mâchoires se tendent. Les verres d'eau posés devant eux sur la table deviennent soudain des menaces silencieuses. Erin, elle, ne baisse pas les yeux. Elle scrute son audience comme pour les obliger à affronter ce qu'ils ont fait. Elle n'a pas besoin de crier. Le silence qui suit ses paroles est plus violent que n'importe quelle plaidoirie. Même les journalistes, présents au fond de la salle, cessent de prendre des notes. Et dans ce silence, tout bascule. Le verre d'eau, symbole fragile et implacable, vient de renverser l'équilibre des forces. Les familles sentent qu'elles ne sont plus invisibles. Pacific Gas and Electric comprend qu'il n'y a plus d'échappatoire. La victoire est encore à prononcer, mais déjà dans cette salle, elle se dessine. Erin parvient à faire obtenir aux habitants de Hinckley un dédommagement record de 333 millions de dollars auprès de la désormais célèbre multinationale californienne. À l'époque, ce montant colossal est l'un des plus importants jamais obtenus dans une affaire de ce type. Mais derrière ce chiffre impressionnant, c'est surtout une victoire immense pour une communauté longtemps ignorée et exposée à un danger invisible. Quant à Erin, elle touche 2 millions de dollars, une somme qui va bouleverser sa vie. Elle est seule dans sa voiture quand elle reçoit la nouvelle. Le moteur tourne encore. Dehors, le soleil frappe le bitume. Un chien traverse lentement le trottoir, la langue pendante. Un sac plastique roule dans un souffle d'air chaud. Erin reste là, immobile, les doigts crispés sur le volant. Le monde autour d'elle ne change pas. Mais quelque chose en elle vient de basculer. Ce n'est pas l'argent, non, pas vraiment, non. C'est ce que cela signifie. Quand elle rentre chez elle, ses enfants ne sont pas là. Le silence l'accueille comme un drap humide. Elle passe dans la cuisine, ouvre un tiroir, le referme. Son regard accroche les factures empilées, le frigo cabossé, le robinet qui goûte. Elle se laisse tomber sur une chaise. Respire. Elle laisse ses épaules se relâcher pour la première fois depuis longtemps. Elle ne ressent pas d'euphorie, juste un calme nouveau, une confiance qui s'installe doucement. Le lendemain, elle ne change rien. Elle garde ses bottes usées et son franc-parler. Elle retourne au bureau, le même café tiède à la main. Mais quand elle entre, les regards changent. On y voit une forme de respect et un peu d'admiration aussi. Elle a gagné, mais elle n'a pas oublié ce que ça lui a coûté. Par un enchaînement presque invraisemblable de coïncidences, l'histoire d'Erin Brockovich va finalement franchir les portes d'Hollywood. Cela ne s'est pas joué dans une salle d'audience, ni sous les flashs des photographes, mais dans un cabinet de kinésithérapie. Une amie proche d'Erin, kiné de profession, reçoit sur sa table une patiente particulière. Une productrice de cinéma. En massant ses épaules, elle se met à raconter l'histoire de cette femme incroyable qu'elle connaît. Ce combat inégal mené contre une multinationale. Cette énergie hors norme qui a permis à des centaines de victimes d'obtenir justice. La productrice écoute, d'abord intriguée, puis captivée. Le récit semble déjà écrit comme un scénario, avec ses rebondissements, ses moments de doute et son héroïne flamboyante. Elle sait immédiatement qu'il y a là matière pour faire un film. De fil en aiguille, le projet prend forme. Hollywood s'en empare. Et voilà qu'Erin se retrouve propulsée une nouvelle fois dans un univers qui lui était totalement inconnu jusqu'alors. Dans le film, elle fait une apparition éclair. Celle d'une serveuse qui dépose un café. La scène est minuscule, mais elle lui rappelle que c'est sa vie qui est racontée. Sur le plateau, durant le tournage, elle observe Julia Roberts, incarner son quotidien, répétant chaque geste et chaque regard sous la direction de Steven Soderbergh. Erin se tient légèrement en retrait, fascinée par le spectacle qui se joue devant elle. L'actrice répète inlassablement un geste, une main qui balaie nerveusement une mèche de cheveux, un regard appuyé vers son interlocuteur, une respiration marquée avant de répliquer. Erin reconnaît immédiatement ses propres tics, ses habitudes, ses façons de se contenir et de s'affirmer dans la même seconde. Voir Julia Roberts les reproduire avec une telle précision la trouble. Le réalisateur donne ses indications d'une voix calme mais ferme, et le plateau s'exécute dans une chorégraphie minutieuse. Câbles déplacés, micros tendus, silhouettes qui filent entre les caméras. Quand la prise s'achève, Julia Roberts lève les yeux, essoufflée, les épaules tendues. Erin se sent traversée par un frisson. L'intensité de cette scène traduit avec une justesse presque insoutenable ce qu'elle a vécu. Le jour de la première, sur le tapis rouge, Erin Brockovich avance maladroitement entre les flashs des appareils photo. Elle sourit, mais au fond, elle se sent illégitime. « Qu'est-ce que je fais là ?» pense-t-elle en voyant défiler les stars, les journalistes, les projecteurs. Elle, qui a toujours arpenté les cuisines modestes des familles de Hinckley, se retrouve soudain sous les dorures et les paillettes. Puis vient la consécration. Julia Roberts, dans son rôle, reçoit l'Oscar de la meilleure actrice. La salle se lève, applaudit, et par ricochet, applaudit aussi Erin. Son histoire, autrefois confinée au mur d'un tribunal, devient connue dans le monde entier. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les paillettes ne détournent pas Erin de son engagement. Elle profite de cette visibilité pour poursuivre son combat. Elle crée son propre cabinet d'investigation et de soutien aux victimes, se rend sur le terrain, participe à des manifestations. Dans ses bagages, elle ne transporte pas la gloire, mais les visages des familles rencontrées, les voix de celles et ceux qui n'ont jamais été entendus. Au fil des années, des centaines de personnes la contactent. Des citoyens inquiets, qui recensent des cas de cancer dans leur quartier, qui soupçonnent une eau polluée, qui demandent de l'aide. Effectivement, l'affaire Erin Brockovich a mis en lumière les dangers invisibles que représentent certaines pollutions industrielles. Un combat qui trouve un écho particulier en Belgique aujourd'hui, notamment avec la question des PFAS. Ces substances chimiques, utilisées dans une multitude de produits pour leurs propriétés déperlantes et résistantes, sont devenues un enjeu majeur de santé publique. Comme l'eau contaminée de Hinckley, dans le cas Brockovich, les PFAS ont infiltré les sols et les nappes phréatiques. Pour Erin, la reconnaissance internationale a un prix. Porter toutes ces histoires, absorber tant de douleurs et de souffrances, finit par peser lourd. Erin connaît des périodes de découragement, parfois même de dépression. Derrière la célébrité, il y a la fatigue d'un combat sans fin. Au fil du temps, Erin a aussi compris que la lutte ne se limite pas aux tribunaux. Elle a vu l'importance d'éduquer, d'informer et de sensibiliser le public, car sans une prise de conscience collective, les risques restent méconnus. Les pollutions invisibles continuent de sévir et les populations vulnérables restent exposées. Aujourd'hui, son combat passe aussi par des conférences, des rencontres avec des associations locales, des projets de prévention et le soutien à celles et ceux qui se battent sur le terrain. Elle sait que chaque voix compte, que chaque témoignage peut faire basculer une situation. Erin Brockovich incarne cette idée que la justice environnementale est un processus long et indispensable, et que protéger l'eau, la terre et l'air, c'est avant tout protéger les personnes. Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Selene Sinagovits et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.